Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La conversation et relations. Au programme, voici ce que vous devez savoir sur les PFAS que l'on surnomme polluants éternels. Et défis et aspirations de la jeunesse, IU. Bonne écoute.
Voici ce que vous devez savoir sur les PFAS, que l'on surnomme polluants éternels. Un texte de Sébastien Sauvé et Marc-André Werner paru le 20 décembre 2020 dans La Conversation. Les PFAS, produits chimiques toxiques, sont à l'origine du scandale en Virginie-Occidentale, décrit dans le film Dark Waters. Ils ont également fait l'objet du documentaire primé « The Devil We Know ». Que s'est-il passé? Une usine de production de PFAS a causé une vaste pollution de la région et affecté ses employés et les gens qui buvaient l'eau contaminée. Depuis ce scandale, les connaissances sur la toxicologie des PFAS, soit l'étude de leurs effets nocifs sur la santé, évolue constamment. Ces contaminants sont associés à une augmentation des concentrations sanguines de cholestérol, une réduction de la croissance fœtale, une diminution de la réponse immunitaire au vaccin et une augmentation des risques de cancer du rein. La liste des problèmes de santé causés par les PFAS continue de s'allonger au fur et à mesure que les études épidémiologiques s'accumulent. Experts en chimie de l'environnement et en santé environnementale, nous proposons d'apporter un éclairage sur la problématique des PFAS. Les multiples applications des PFAS. Le nom est plutôt rébarbatif et vient de l'anglais Per- and polyfluoroalkyl substances, soit des substances alkylées, per- ou polyfluorées. Les PFAS sont des molécules chimiques synthétisées en laboratoire. Elles sont composées, d'une part, d'une chaîne d'atomes qui a les mêmes propriétés que l'huile. Ces atomes rendent les PFAS particulièrement stables et difficiles à dégrader, de là leur surnom de polluants éternels, Forever Chemicals. D'autre part, les PFAS sont aussi constitués d'une partie qui aime l'eau et qui fuit l'huile. Cette dualité d'avoir un côté qui aime l'huile plus que l'eau et un autre qui aime l'eau et qui fuit l'huile, en fait un surfactant, soit une molécule qui fait le lien entre deux interfaces, huile et eau dans ce cas, et qui résiste aussi bien à l'eau qu'à l'huile. Par ailleurs, sa composition chimique lui confère des propriétés recherchées pour toutes sortes d'applications modernes. L'utilisation la plus connue des PFAS, largement abordée dans le documentaire « The Devil We Know », est celle d'antiadhésifs pour nos instruments de cuisson, les fameuses poêles en téflon. On les utilise également pour protéger nos meubles, tapis et textiles contre les taches, les produits de type « Scotch Guard ». Les PFAS peuvent être utilisés pour imperméabiliser une multitude de vêtements. Ils sont également présents dans certains cosmétiques dits hydrofuges ou résistants à l'eau, comme le fond de teint. Plusieurs papiers et cartons résistants à l'eau ou aux graisses sont aussi traités aux PFAS et beaucoup de plastiques en contiennent. une excellente façon d'augmenter son exposition aux PFAS est de manger du maïs soufflé en sac chauffé au four au micro-ondes. Le sac est traité au PFAS pour résister à la graisse qui fait éclater le maïs. Bien entendu, tous ces produits risquent de se retrouver dans nos déchets. Conséquemment, les sites d'enfouissement représentent des sources potentiellement inquiétantes de PFAS. Finalement, les mousses anti-incendie formant une pellicule aqueuse qui sont utilisées pour combattre les feux à base d'hydrocarbures, pétrole, gaz naturel, représentent une source majeure de PFAS. Les endroits où ces mousses ont été utilisées font face à des problèmes de contamination au PFAS. On parle ici de la plupart des sites d'entraînement des pompiers, plusieurs aéroports et de multiples bases militaires. Contourner les règles. Les deux PFAS originaux, PFOS et PFOA, sont considérés comme des polluants organiques persistants et ont été bannis par la Convention de Stockholm. Malheureusement, l'industrie est ingénieuse pour contourner les règles en modifiant une portion de la structure chimique complexe des PFAS. Dans quel but? Celui de générer un composé aux propriétés industrielles et commerciales très similaires, mais qui échappent à la réglementation. Au fur et à mesure que les chercheurs et les agences gouvernementales de protection de l'environnement accumulent des données pour tenter de réglementer certains PFAS spécifiques, l'industrie a le beau jeu de changer de molécules et d'utiliser de nouvelles versions alternatives. Vous écoutez. Voici ce que vous devez savoir sur les PFAS que l'on surnomme polluants éternels, un texte de Sébastien Sauvé et Marc-André Werner, paru le 20 décembre 2020 dans La Conversation. Ainsi, sur les milliers de composés PFAS disponibles, les réglementations n'en touchent habituellement qu'un très petit nombre, souvent moins qu'une dizaine selon les pays. Seuls, au mieux, une trentaine de PFAS sont détectés et exigés par les méthodes d'analyse actuelles. On parle d'un décalage immense. De plus, plusieurs des nouvelles formulations de PFAS sont appelées des précurseurs, puisqu'elles peuvent se dégrader dans l'environnement et se transformer en d'autres PFAS, dont le PFOA ou le PFOS, les deux molécules bannies. La complexité du nombre de molécules et leurs propriétés uniques rendent l'analyse des PFAS complexe et difficile. De plus, leur omniprésence dans l'environnement réduit la fiabilité des résultats de laboratoire qui peuvent être contaminés si la préparation d'échantillons et les procédures ne sont pas appropriées, surtout pour l'analyse de l'eau potable. Il est aussi important d'intégrer un maximum de PFAS possible au suivi environnemental afin d'éviter qu'un ou plusieurs composés particulièrement problématiques échappent au suivi. Des contaminants qui s'accumulent dans les tissus. Leur persistance et leur capacité à s'accumuler dans les tissus des organismes vivants, bioaccumulation, font en sorte qu'on les retrouve en haut des chaînes alimentaires. On les détecte notamment chez les mammifères marins de l'Arctique, ce qui impacte les populations principalement autochtones qui en dépendent pour se nourrir. On assiste ainsi à une injustice environnementale puisque ces communautés subissent les effets d'une pollution à laquelle elles n'ont aucunement contribué. En plus de leur persistance dans l'environnement, plusieurs PFAS sont également persistants dans le corps humain. Même en réduisant l'exposition à ces contaminants, les PFAS peuvent prendre des années à être éliminés de l'organisme. En raison de l'exposition ubiquitaire et de cette persistance, plusieurs PFAS sont détectés dans la quasi-entièreté des échantillons de sang récoltés dans le cadre de l'enquête canadienne sur les mesures de santé menée par le gouvernement fédéral. Une étude canadienne a par ailleurs démontré que ces contaminants se retrouvent également dans les échantillons de sang du cordon ombilical et dans le lait maternel. Nous portons donc des traces de PFAS dans notre organisme dès notre conception. L'épineuse question du traitement des eaux usées. Les propriétés chimiques des PFAS les rendent aussi particulièrement difficiles à éliminer quand ils se retrouvent dans notre eau potable ou notre eau usée. Les traitements usuels pour l'eau potable enlèvent très peu ou pas du tout des PFAS présents dans l'eau. Des investissements significatifs sont donc nécessaires pour modifier les procédés de traitement dans le but de les éliminer. De plus, le traitement de l'eau usée peut augmenter très significativement les concentrations de PFAS dans les boues d'épuration, principales déchets issus du processus d'épuration. Ces boues, aussi appelées biosolides, contiennent bien souvent des concentrations de PFAS comparables aux niveaux ambiants détectés ailleurs. Mais si les eaux usées contiennent des rejets d'un procédé industriel ou commercial qui utilise les PFAS, les biosolides qui en résultent pourraient être très contaminés aux PFAS. L'État du Maine a même légiféré pour interdire toute forme de valorisation des boues municipales d'épuration des eaux usées. Dans cette ère de réchauffement global, où l'on doit tout mettre en action pour réduire nos émissions de carbone, cette interdiction semble mal avisée et signifie que les boues devraient être incinérées en brûlant vraisemblablement des hydrocarbures. On parle alors, évidemment, d'un bilan carbone abominable. La solution pour pouvoir valoriser les biosolides passe par une meilleure réglementation de l'utilisation des PFAS pour prévenir leur apparition dans les eaux usées et les boues d'épuration municipale. On peut aussi très bien vérifier les concentrations dans les biosolides avant leur valorisation et ainsi éviter les risques de contaminer nos sols en établissant des seuils de PFAS à ne pas dépasser. Nous veillons actuellement à la réalisation de cet objectif en collaboration avec le ministère de l'Environnement du Québec. Le dossier des PFAS est particulièrement complexe. Les experts et les diverses agences de protection de l'environnement du monde n'étant pas encore capable de trouver un consensus pour définir ce qui est sécuritaire. Nous devrions être particulièrement vigilants et appliquer le principe de précaution qui stipule que une substance doit être considérée comme potentiellement nocive pour la santé humaine et pour l'environnement jusqu'à preuve du contraire. Il importe également de mieux réglementer cette famille de polluants inquiétants qui se retrouve absolument partout. C'était « Voici ce que vous devez savoir sur les PFAS, que l'on surnomme polluants éternels », un texte de Sébastien Sauvé et Marc-André Werner, paru le 20 décembre 2020 dans « La Conversation ».
Défis et aspirations de la jeunesse IU. Un texte de Tania Larivière, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022, de la revue Relations. La jeunesse autochtone au Québec et au Canada est extrêmement dynamique et en plein essor. Dans les réserves et communautés, elle représente bien souvent la majorité de la population. Elle n'en demeure pas moins confrontée à d'importants défis et contraintes dans un contexte où les conséquences du colonialisme se font toujours sentir. Pour en avoir un aperçu, nous avons demandé à Tania Larivière, chargée de projets spéciaux au Conseil des jeunes de la Nation Cree, de nous décrire la réalité des jeunes de sa génération qui habitent Iyu-Ichchi, le territoire Cree, et les solutions qu'ils et elles mettent de l'avant pour affronter l'avenir en dépassant les différentes formes d'exclusion. Avant d'aller plus loin, si on s'intéresse aux jeunes autochtones, il faut savoir à quel point leur lieu d'origine influence les défis auxquels ils et elles font face à la manière de les aborder. Selon qu'on vive en réserve ou en communauté, en milieu urbain, comme à Val-d'Or, Chibougamau ou même Joliette, ou dans les grands centres, comme Montréal et Québec, il s'agit de trois réalités très différentes pour les jeunes autochtones. Des réalités qui, bien souvent, se vivent en vase clos, déconnectées les unes des autres. La manière d'aborder les enjeux y est aussi très différente. En tant qu'Algonquine de Val-d'Or qui a grandi en territoire Cree, ou Oudjé, et qui a fait ses études universitaires à Québec, j'ai un pied dans ces différents mondes, ce qui me permet de faire des liens, mais aussi de comprendre et de rendre compte de la réalité des jeunes qui vivent dans les communautés. Ensuite, une autre précision me semble importante avant d'aller plus loin. Il faut rappeler que la Nation Cree est elle-même un cas à part par rapport aux autres Premières Nations du Québec. C'est en partie lié au fait qu'on y parle davantage anglais, mais aussi en raison de la Convention de la baie James et du Nord québécois, qui nous confère une structure de gouvernement différente de celle de la plupart des autres nations, n'étant pas soumise à la loi sur les Indiens. Il faut en tenir compte lorsqu'on se compare aux autres. Malgré ces distinctions, je constate beaucoup de similarités en ce qui concerne les grands enjeux qui touchent les jeunes. Parmi ceux-ci, il y a d'abord l'éducation. En réserve, les écoles n'arrivent pas toujours à offrir le même niveau qu'ailleurs. Les cours de mathématiques ou de sciences avancées, par exemple, ne sont pas toujours disponibles. Les jeunes qui vont poursuivre des études post-secondaires dans les grands centres urbains partent donc désavantagés par rapport à leurs pairs. C'est oublier le fait que si le cursus est certes un peu adapté à la culture Cree, le cadre scolaire, lui, ne l'est pas forcément. Apprendre dans une salle de classe une culture qui se vit en grande partie sur le territoire est un peu contradictoire. Se plier aux structures scolaires tout en respectant les nôtres ne se fait pas aisément. Tout cela et bien d'autres facteurs a donc un effet sur la persévérance scolaire. Ce n'est pas la capacité des jeunes qui fait défaut. Il y a un énorme potentiel, mais ce cadre n'est pas toujours très stimulant et plusieurs sont rapidement démotivés. Et ce, pas uniquement dans les filières qui mènent aux études post-secondaires. C'est aussi le cas dans nos programmes de diplôme d'études professionnelles, DEP, qui sont tout aussi importants pour le développement de nos communautés. Surtout, le décrochage scolaire n'est pas sans lien avec d'autres défis, en particulier celui de la surpopulation des logements, qui est commun à presque toutes les communautés autochtones. En effet, il n'est pas rare de voir des familles de 12 personnes habiter la même maison, avec la mère, la grand-mère, les petits-enfants, etc. Or, qu'il s'agisse de logements sociaux offerts par les conseils de bande ou d'habitations privées, leur construction est plus compliquée et moins rapide dans nos communautés qu'ailleurs, par manque d'accès aux ressources et surtout à la main-d'œuvre. D'où l'importance de former des gens comme des électriciens, des charpentiers, etc., dans nos programmes de DEP. L'enjeu de la formation et de garder les jeunes sur les bancs d'école est donc crucial à plusieurs niveaux si on souhaite briser différents cycles d'exclusion qui s'alimentent mutuellement. Car les logements surpeuplés, le faible niveau d'éducation et aussi le manque d'activité pour les jeunes, à part le hockey, mais ce n'est pas pour tout le monde, ne sont pas sans lien avec les problèmes d'abus d'alcool et de drogue qui affectent nos communautés. Pour tenter d'y remédier, que ce soit à travers la structure du Conseil jeunesse de la Nation CRI, CJNC ou non, il y a beaucoup de jeunes chefs de bande et de conseillers locaux qui essaient de mettre sur pied des programmations pour les jeunes, des événements, des ateliers, etc., pour les intéresser et les garder occupés de manière plus constructive. Mais comme les problèmes de consommation seront toujours là, on commence aussi à parler de plus en plus de réduction des méfaits plutôt que de lutte contre les drogues, une approche qui ne fait qu'accroître la judiciarisation des jeunes déjà plus élevée que la moyenne dans les communautés autochtones. Vous écoutez « Défis et aspirations de la jeunesse IU », un texte de Tania Larivière paru dans le numéro 815 hiver 2021-2022 de la revue Relations. Dans un esprit similaire, il y a dans toutes les communautés une salle de cours qui prévoit différentes approches traditionnelles de guérison basées sur le territoire, qui permettent de ramener aux sources les personnes judiciarisées dans des campements ou des retraites de 21 jours sur le territoire, par exemple. Il y a des suivis un peu plus humains qui tiennent davantage compte du contexte et qui cherchent des moyens de réhabilitation qui sont adaptés culturellement. C'est une de nos belles réussites qui montre par ailleurs qu'il existe chez les jeunes une grande volonté de se réapproprier la culture traditionnelle. Surtout, le décrochage scolaire n'est pas sans lien avec d'autres défis, en particulier celui de la surpopulation des logements, qui est commun à presque toutes les communautés autochtones. Il y a en effet une grande demande pour différentes activités sur le territoire, comme les expéditions en canot, en raquette, le séchage et le fumage des poissons, etc. Pour mettre en place ces activités, au CJNC, on travaille beaucoup avec les aînés, bien sûr, mais les jeunes aujourd'hui ont aussi les compétences et l'expertise requises pour transmettre ces savoirs. Pour donner un exemple, à Eastman, les jeunes qui s'occupent du programme de pêche ont tous moins de 30 ans, ils savent tout ce qu'il faut savoir en la matière. Malheureusement, ce rôle de transmission culturelle n'est pas assez reconnu. On a encore l'idée que les experts, ce sont les aînés. Il faut reconnaître ce rôle et arrêter de romantiser la vie d'avant, qui était une vie très difficile, même si on était plus près de la nature. Il est vrai cependant que les temps ont changé extrêmement vite. L'arrivée d'Internet, des nouvelles technologies et même des motoneiges est très récente dans notre histoire. Ce nouveau contexte demande beaucoup d'ajustements et entraîne d'importantes remises en question, en particulier chez les jeunes qui se posent beaucoup de questions sur ce qui est authentique ou pas dans leur pratique. Ces questionnements affectent directement l'identité, l'appartenance et ont un effet déterminant sur ce qu'on veut pour le présent et pour l'avenir. Malgré tout, avec notre génération vient une certaine prise de conscience qu'on arrive à maintenir notre identité même si on doit s'adapter à la nouvelle réalité. Sans nier le passé, il faut maintenant composer avec le contexte actuel. Ce nouvel élan n'est pas étranger aux excuses officielles du gouvernement canadien, à la Commission de vérité et réconciliation et, avant elle, à la Commission royale sur les peuples autochtones en 1991. Ces événements ont entre autres permis d'ouvrir la discussion sur le traumatisme des pensionnats. Accepter que cela fait partie de notre histoire nous permet de savoir comment envisager l'avenir et de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre dans nos interactions avec les différents paliers de gouvernement, les institutions et le monde extérieur. on comprend mieux certains réflexes de repli sur nous-mêmes, par exemple. On commence ainsi à avoir plus d'ouverture à parler des enjeux, à vouloir éduquer les gens qui sont autour de nous, incluant les allochtones, à propos de notre histoire, etc. On commence aussi à élever davantage la voix devant les injustices. Avec notre génération vient une certaine prise de conscience qu'on arrive à maintenir notre identité, même si on doit s'adapter à la nouvelle réalité. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont importants, mais la nouvelle génération en est consciente à bien des égards et saura y faire face en sachant que nos héritages culturels, linguistiques, mais aussi politiques devront être adaptés pour pouvoir se transmettre. Elle pourra aussi compter sur le poids du nombre, car la moitié de la population crie à moins de 24 ans. C'est toute cette génération qui devra, entre autres, se charger de la renégociation de la Convention de la Baie James, qui sera inévitable dans une trentaine d'années, notamment en raison de la forte croissance de la population, des effets des changements climatiques, etc. Il faudra lui faire confiance, même s'il y aura sans doute des désaccords et des tensions. N'oublions pas aussi que Billy Diamond n'avait que 24 ans lorsqu'il a négocié la convention de la Baie James pour les Cris. C'était « Défis et aspirations de la jeunesse Iyou », un texte de Tania Larivière, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022 de la revue Relations.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault et Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.